Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un intellectuel et historien indien qui va nous parler de l'Inde, Inde ouverte, Inde fermée. Il s'agit donc de Sanjay Subramaniam, qui est né en 1961 à New Delhi. Il a fait des études, une licence et une maîtrise d'économie à l'Université de Delhi et un doctorat en histoire économique à la Delhi School of Economics. Son parcours, maître assistant à la Delhi School of Economics. Il a été 87-88 maître assistant à l'Université de Pennsylvanie aussi, professeur associé à la Delhi School of Economics de 89 à 93, professeur d'histoire économique toujours à la Delhi School of Economics, et depuis 1995, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Actuellement, il est au Wissenschaft College à Berlin en détachement pour, je suppose, une année. Ses spécialités, c'est l'histoire économique et sociale de l'Inde et de l'océan Indien. Ses publications sont nombreuses. Elles sont essentiellement en anglais, hormis une qui est traduite en français. Une histoire de l'économie politique du commerce de l'Inde du Sud, 1516-1650, paru à Cambridge en 1990. Une histoire du commerce portugais et de l'installation portugaise dans la baie du Bengale, 1500-1700, paru en 1990. Un livre sur l'Empire portugais en Asie, 1500-1700, qui a été traduit en français, donc je le signale, l'Empire portugais d'Asie, 1500-1700, histoire économique et politique, traduit et publié chez Maisonneuve et La Rose en 1999. Et enfin, un livre sur la carrière et la légende de Vasco de Gama, 1997, et sur la politique dans l'Inde du Sud en 2000. Voilà, donc je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, selon la formule consacrée, et puis ensuite il répondra à vos questions. Merci.
Mes chers collègues et amis, parisiens et indiens, et parfois les deux à la fois, mesdames et messieurs, quand les organisateurs de l'Université de tous les savoirs m'ont invité, il y a quelques mois, à intervenir dans le cadre de cette série de conférences, vous pouviez tous imaginer à la fois mon plaisir et mon sentiment d'embarras. Car parler de l'Inde, c'est parler d'un sixième de l'humanité, pour reprendre le cliché journalistique. Mais parler de l'histoire de l'Inde, c'est parler d'un champ trop rarement abordé en France. L'Inde des philosophes et des mystiques est relativement présente dans ce pays, mais je suis moi-même ni philosophe ni mystique, malgré ma barbe trompeuse. Économiste de formation et historien de préférence, comme vous venez de l'entendre, il n'était pas évident pour moi de trouver un moyen d'aborder l'Inde dans les cadres les plus familiers en France. Où commencer? Et surtout, comment terminer en 50 minutes? Au bout de quelques semaines de réflexion, j'ai dû abandonner le projet de résumer les grandes lignes de l'histoire de l'Inde en faveur d'une autre approche qui m'est venue à l'esprit en relisant le livre récent et controversé d'un ami et collègue de l'Université de Londres, M. Sunil Khelani. Le livre a pour titre « The Idea of India », l'idée de l'Inde. Voici donc une petite réflexion historique de trois quarts d'heure sur l'évolution de l'idée de l'Inde et les versions concurrentielles que l'on trouve, pour ainsi dire, dans le supermarché des savoirs. D'où vient l'idée que l'on se fait de l'Inde aujourd'hui en Occident? Deux thèses ont été avancées pour expliquer les origines de l'image de l'Inde qui apparaît en France tous les jours, soit à la télévision, soit dans les journaux, voire lorsque l'on interroge de façon peu rigoureuse les clients qui attendent patiemment leur tour dans une salle d'attente, par exemple, de Nouvelles Frontières. La première thèse, plus ou moins naïve, expose que les Occidentaux ont tout simplement accumulé des informations sur l'Inde au fur et à mesure de leur présence là-bas, comme on le dit, depuis l'Antiquité, mais surtout depuis l'arrivée en nombre des Portugais, des Britanniques et des Français, c'est-à-dire entre l'époque de Vasco de Gama en 1500 et celle de Joseph-François Dupleix vers 1750. Ainsi, l'image que l'on se fait de l'Inde correspondrait tout simplement, à quelques détails près, à la réalité indienne même, systématisée bien sûr à la mode occidentale par ces observateurs exotiques. Si l'on se demande dans quelle mesure cette image est acceptée par les Indiens eux-mêmes, que ce soit ceux qui habitent en Occident ou ceux qui habitent en Inde, la question risque d'être mal prise. La vie de ceux qui habitent à l'intérieur d'un système, dira-t-on, n'est pas nécessairement celui qui permet de le caractériser. Qui plus est, l'image ainsi reçue de l'Inde n'étant pas complètement négative, il est légitime d'imaginer que des Indiens seraient, dans une certaine mesure, flattés par la façon dont ils sont représentés entre éléphants et serpents, gourous et maharaja, non-violence gandhienne et bombes nucléaires. Quelques précisions d'abord avant de rentrer dans mon argument central qui s'appuie sur l'opposition entre l'idée d'un Inde carrefour et l'idée d'un Inde civilisation. C'est autour de ça que je vais jouer aujourd'hui. Pour simplifier, disons que les principaux éléments de l'image de l'Inde en Occident depuis le début du XXe siècle au moins sont au nombre de quatre. En premier lieu, l'Inde en tant que société de caste, opposée de par sa nature même à l'Occident égalitaire. Deuxièmement, l'Inde comme réservoir d'une spiritualité individuellement vécue, sans église ni religion organisée, que fait d'elle, encore une fois, l'opposé de l'Occident. Troisièmement, l'Inde comme pays de la pauvreté flagrante, plus dramatique encore que dans les bidonvilles du Brésil ou dans les régions sèches d'Afrique, car cette pauvreté est conjuguée avec la dite spiritualité. Et, en dernier lieu, ce que fait le grand paradoxe, l'Inde, depuis 1950 au moins, en tant que démocratie. Bien sûr, pas une vraie démocratie à la française, mais une démocratie à sa propre façon, combinant l'inégalité figée du système de caste avec la possibilité éternelle de changement qui est inscrite dans la notion même de démocratie. Or, la deuxième thèse à propos de cette image à la fois puissante et contradictoire de l'Inde veut que cette image soit tout simplement fausse, fabriquée de toutes pièces, essentiellement par l'Occident, mais aussi par ce qu'on peut appeler les faux Indiens, des Indiens déracinés et occidentalisés, qui auraient perdu le sentiment de leur appartenance à cause de leur métissage culturel. Puisant dans les écrits théoriques des auteurs anticoloniaux et postcoloniaux, tels que Frantz Fanon, Edward Said ou Ranajit Guha, les protagonistes de cette ligne d'argumentation se trouvent aujourd'hui aussi bien à droite qu'à gauche, si l'on peut légitimement utiliser cette cartographie politique dans le cas indien. Ceux de gauche proposent, en effet, de tout mettre sur le dos du gouvernement colonial de Britannique, qui aurait plus ou moins consciemment créé une image de l'Inde pour l'utiliser à l'intérieur même de l'Inde. Ainsi, cette image serait sortie de l'usine de la gouvernementalité coloniale, mais également pour la réexporter ensuite en Occident. Les grands noms de cette conspiration sont nombreux, de Major Edward Moore, auteur de livres autrefois célèbres mais aujourd'hui presque oubliés, The Hindu Pantheon de 1810, et le célèbre Sir William Jones, jusqu'à Henry Maine, B.H. Baden-Powell, fondateur du scoutisme mais également savant administrateur colonial chevronné, et les dirigeants de recensement, le dit Census of India, ou encore les auteurs de nombreuses séries officielles qui ont pour titre Castes et tribus de l'Inde du Nord ou de l'Inde du Sud, les musulmans de l'Inde, les hindous de l'Inde, et ainsi de suite. Rien de plus naïf pour les adhérents de cette ligne de pensée, donc, que d'imaginer qu'il y avait un savoir occidental sur l'Inde qui n'était pas imbriqué avec des buts douteux, inspirés par le contrôle social d'un côté et de l'autocélébration de l'autre. Ces arguments, provenant, comme j'ai dit, de la gauche anticoloniale, ont été redéployés plus récemment par les penseurs de la droite et même l'extrême droite en Inde, dans le cadre d'une stratégie de pouvoir qui vise, soi-disant, à récupérer le passé indien des mains des Occidentaux. La tâche est assez difficile, car les idéologues de l'extrême droite hindoue veulent ainsi supprimer une partie des clichés sur l'Inde, caste, inégalité et pauvreté, par exemple, tout en gardant le cachet positif d'autres éléments aussi stéréotypés, tels la spiritualité accentuée de l'Inde. Il serait inutile, à mon avis, de trop insister ici sur ces questions, qui ont d'ailleurs fait couler beaucoup trop d'encre, aussi bien en Inde qu'en Occident. Inutile surtout car il est évident que les deux parties ont à la fois raison et tort. Si l'image de l'Inde n'est pas seulement le rassemblement des données que l'expérience sur le terrain a révélées aux observateurs, il est aussi indéniable que l'image de l'Inde, telle qu'on la trouve dans les manuels d'ethnologie ou dans le programme Faut pas rêver, est beaucoup plus qu'une série de fantasmes produits par la peur de l'inconscient collectif occidental face à l'altérité indienne. Même les plus idiosyncratiques des ethnologues sont incapables, en fin de compte, d'effacer totalement les traces de leurs informateurs. Et la même chose s'avère chez les administrateurs coloniaux. En bref, l'image de l'Inde que nous avons devant nous est un produit mixte de fabrication indéterminée et multiple. Je vous propose ici une autre façon d'aborder l'Inde, son histoire et son image, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du sous-continent indien même. Pour faciliter ma tâche, un simple cadre comparatif sera utile. Si l'Inde est dotée d'images très fortes, la Chine est aussi construite en Occident à travers d'une série de clichés, en partie d'origine récente, comme les fourmis bleues ou les innombrables bicyclettes, et d'autres encore d'origine plus ancienne, telle la sagesse chinoise si chère à Voltaire il y a déjà 2 siècles et demi. Le problème est tout à fait autre quand on pense à l'Asie du Sud-Est. Le regretté Denis Lombard a étudié de façon très pertinente la constitution de l'Indonésie dans un ouvrage qui porte un titre significatif, Le Carrefour javanais, essai d'histoire globale, paru en 1988. Cet ouvrage démontre la formation d'une culture par un processus de superposition. Ainsi, l'on trouve à Java une couche d'occidentalisation relativement superficielle due à la présence coloniale néerlandaise, ensuite une couche mixte d'influences chinoises et islamiques, au troisième niveau, une couche d'influences dites hindoues ou au moins indiennes, qui remonte à l'époque des grands états agraires, et ainsi de suite. Or, un fondamentaliste javanais, à la recherche de ses vraies racines indigènes, serait obligé de gratter très loin pour trouver quelque chose de significatif qui soit totalement originaire de l'île. Peut-on dire par conséquent que Java n'existe pas, car tout provient d'ailleurs? Ou faudrait-il dire, au contraire, que la spécificité javanaise se trouve précisément dans la façon dont différents éléments y sont mélangés? De toute façon, comme Lombard l'a très justement remarqué, le fait d'être perçu comme un mélange ou comme un carrefour a rendu particulièrement difficile la mise en image de Java. En fin de compte, ni Java ni l'Indonésie dans sa totalité ne sont identifiés en tant que civilisation avec leurs caractéristiques propres. L'embarras des théoriciens américains de combat des civilisations, auquel il faudrait s'attendre, semble-t-il, dans un proche avenir, face à des régions comme Java, est assez évocateur. Et si l'Inde n'était pas une civilisation, mais plutôt un carrefour? Quelques remarques d'abord sur la notion même d'Inde, ses limites géographiques et ses limites conceptuelles. Comme chacun le sait, le mot Inde n'est pas une auto-appellation. La constitution indienne de 1950 préfère le mot Bharat. Et on utilise aujourd'hui plus couramment en Inde un autre mot encore, celui de Hindustan. Quant au mot Inde, il vient de l'arabe Hind, lui-même étant probablement une déformation du mot Sindh, région de l'Inde occidentale, aujourd'hui dans le Pakistan, déjà connue en Occident à l'époque des expéditions d'Alexandre le Grand. Les textes écrits par les voyageurs et surtout par les géographes et encyclopédistes arabophones à l'époque médiévale ont du mal à délimiter les frontières de l'Inde, même s'il n'y a pas d'ambiguïté concernant certaines régions centrales. Ainsi, il est clair que toute notion de Al-Hind devrait inclure la plaine de Gange et le Punjab. Or, les difficultés commencent quand on entre dans la péninsule indienne et elles s'accentuent encore plus lorsqu'on va de l'Inde actuelle vers l'Orient. Dans un certain nombre de textes du 12e ou du 3e siècle, on retient l'impression qu'une grande partie de l'Indonésie, et surtout les îles de Java et de Sumatra, rentrent dans la définition arabe de Al-Hind. Et la même chose s'avère pour l'Indochine, la Thaïlande et la Birmanie. Les confusions s'aggravent dans des lettres marchandes où parfois tout ce qui est au-delà du Yémen est traité, de point de vue arabocentrique, comme faisant partie de l'Inde. Pour résumer, il est clair qu'autour de 1200 de l'ère chrétienne, les frontières de l'Inde restaient assez ambiguës aux yeux des observateurs arabes, même si l'on s'efforçait de distinguer l'Inde, Hind, de la Chine, Sin, et de la Perse, Ajam. L'île de Sri Lanka, normalement nommée Sarandib dans ces textes, est parfois incluse dans l'Inde, parfois non. Le statut de l'Inde du Sud est aussi assez problématique, car elle fait partie de Al-Hind, mais est en même temps souvent exclue de la notion voisine de Hindustan, que l'on trouve déjà en usage au XIVe et XVe siècle. Renversant la perspective, l'on est en droit de se demander dans quelle mesure ces notions sont appliquées à l'intérieur même de l'Inde. Le problème est alors rendu encore plus complexe, car il est extrêmement difficile d'arriver à délimiter géographiquement l'Inde à partir des textes internes indiens. Si l'on utilise pour cela les frontières de l'usage du sanskrit en tant que langue de culture ou l'existence des pratiques brahmaniques, nous sommes vite amenés jusqu'en Asie centrale d'un côté et en Asie du Sud-Est de l'autre. Les différentes régions que l'on a récemment décrites comme le cosmopolis du sanskrit ont contribué très inégalement à l'édification du dit cosmopolis. De plus, l'articulation entre culture d'élite et culture populaire suit une géométrie variable dans des cas comme le Cambodge, le Kerala et le Sindh, pour ne prendre que trois exemples dispersés à l'intérieur de ce cosmopolis. Toutes ces régions partageaient une série de traits communs entre les années 600 et 1200 de l'ère chrétienne, qu'il s'agisse de l'usage des épopées comme la Mahabharata et la Ramayana, ou de la construction des temples selon les mêmes schémas théoriques, ou encore des rituels observés dans la culture des cours. Plusieurs interprétations de ces faits historiques ont été données, surtout dans les débats historiographiques du milieu du XXe siècle. Les partisans de la thèse de la Grande Inde, Greater India, ont voulu insister sur le fait que l'influence indienne repoussait très loin les frontières naturelles du pays, l'océan Indien lui appartenant également. On a parlé ouvertement dans les années 1930 et 40 de la mission civilisatrice des Indiens dans des pays comme le Champa, la Thaïlande, Sumatra et Java, faisant de Borobudur ou d'Angkor Wat la gloire de l'Inde hors de l'Inde. Il est important de repérer les étapes dans cette façon de présenter le processus de ce qu'on a appelé l'indianisation de l'Asie du Sud-Est. En premier lieu, il a fallu imaginer que la civilisation indienne existait sous une forme plus ou moins parfaite vers l'an 500 après Jésus-Christ. C'est-à-dire que la grande littérature, la structure sociale, la grande pensée philosophique, tout aurait déjà été en place en Inde. Le processus d'indianisation n'aurait donc été ni plus ni moins que l'exportation de ces structures indiennes vers des terres lointaines où elles auraient fleuri pendant quelques siècles. Le déclin de ces cultures indianisées va à l'encontre, bien sûr, de cette thèse, mais le problème semble surmontable. Une explication proposée est l'hypothèse d'une rupture dans les relations directes entre l'Inde et ses autres cultures. Coupée de la culture mère, elle serait retombée dans un état plus ou moins sauvage avant d'être rattrapée par d'autres processus tels que l'islamisation dans le cas javanais. Au cœur de ces idées, l'on trouve une notion clé, la notion d'Inde-civilisation, elle-même peu éloignée, à mon avis, de la notion d'Inde éternelle. Cette notion se trouve mêlée à toute une série d'autres thèses plus ou moins douteuses, dont la dernière incarnation est l'idée que la civilisation de la vallée de l'Indus serait le vrai berceau de toute la civilisation humaine. Même sans aller aussi loin que les protagonistes de cette thèse, qui avance en effet que le sanskrit védique était déjà parlé dans les villes de Mohenjo-daro et de Harappa et que l'Inde jouissait de chars et de chevaux domestiqués à une époque où ils étaient totalement inconnus ailleurs dans le monde, ceux qui ont voulu insister sur l'idée de l'Inde en tant que civilisation tombent néanmoins dans une série d'autres pièges. Ces pièges, qui proviennent surtout de la notion de stabilité de l'Inde en général, et plus particulièrement de la culture indienne, ont séduit des esprits aussi divers que le pandit Jawaharlal Nehru et le savant orientaliste Arthur Llewellyn Basham. L'essentiel de la construction de l'Inde civilisation, que l'on devrait assimiler dans notre cadre à une version particulière de l'idée de l'Inde fermée, se trouve dans la chronologie qui est proposée. Selon le grand récit devant lequel nous nous trouvons, la civilisation indienne s'est construite entre l'époque védique et le milieu du premier millénaire après Jésus-Christ. L'essentiel de ses ressources culturelles était déjà en place à cette dernière époque et c'est cette civilisation qui pouvait alors être exportée ailleurs, en Asie du Sud-Est par exemple. Ainsi, l'Inde n'est pas considérée comme strictement fermée. Elle est ouverte, mais les échanges s'effectuent à sens unique. L'extérieur ne peut rien apporter d'utile car l'Inde est culturellement autosuffisante. Au contraire, toute chose part de l'Inde vers l'extérieur, en commençant par les grands courants religieux comme le bouddhisme, qui va civiliser une grande partie de l'Asie du Sud-Est, de l'Asie centrale, de la Chine et même du Japon. Le rôle de l'extérieur est surtout passif dans cette situation. Les éléments discordants, comme les incursions militaires originaires de l'Asie centrale, sont des aspects mineurs selon cette perspective, car les envahisseurs seront vite absorbés et domestiqués par la grandeur de la civilisation indienne. Pour l'essentiel, la situation en Inde est considérée comme stable et homéostatique, une espèce de perfection civilisationnelle. Il va de soi que le rôle de l'islam dans ce cadre chronologique ne peut être que hautement négatif. Le lecteur du livre de Basham, The Wonder That Was India, La Merveille qui était l'Inde, comme celui du texte de Nehru, The Discovery of India, La Découverte de l'Inde, est néanmoins presque étonné de voir que l'un et l'autre présentent l'époque à partir de 1200 comme une période de déclin profond pour cette civilisation déjà perfectionnée. La même perspective se retrouve également chez un auteur totalement occidentalisé tel que V.S. Naipaul, qui voit précisément dans la rencontre entre l'Inde et l'islam un combat de civilisation où la civilisation supérieure est paradoxalement mise à genoux par une civilisation inférieure. Naipaul, comme Nehru, évoque de façon larmoyante la sorte de la ville de Vijayanagar, dernier bastion, selon lui, de la grande civilisation hindoue, détruit par les méchants musulmans en 1565. Si les opinions de Basham ou de Naipaul étaient relativement prévisibles, le fait que même Nehru, sanctifié aujourd'hui comme le grand apôtre de la pensée laïque de gauche en Inde, soit tombé dans ces courants de pensée, donne à réfléchir. Je pense que c'est parce qu'il existe un paradigme commun dès que l'on admet la notion forte de l'Inde fermée, de l'Inde civilisation et donc de l'Inde autosuffisante. L'histoire de Vijayanagar même est un exemple très significatif pour illustrer cette idée. Fondée vraisemblablement vers le milieu du XIVe siècle dans la vallée de la rivière Tungabhadra, dans l'Inde du Sud, dans le Karnataka actuel, le royaume de Vijayanagar est issu d'une autre structure politique plus ancienne de la région, le royaume des Hoysala. L'évolution de Vijayanagar est assez complexe. Entre 1350 et 1550, le royaume est puissant, puis il tombe en déclin, un déclin qui va durer jusqu'à la fin du XVIIe siècle et la conquête moghole de l'Inde du Sud. Dans les récits historiques de caractère traditionnel, une date clé est souvent retenue, janvier 1565, quand les armées de Vijayanagar ont été battues sur le champ de bataille par une alliance menée par 5 sultanats, et j'insiste, sultanats de l'Inde du Sud. Depuis la fin du XIXe siècle, l'historiographie coloniale a présenté ce moment comme un tournant dans les rapports entre hindous et musulmans en Inde. Ainsi, dira-t-on, jusqu'à ce moment-là, le royaume de Vijayanagar représentait l'espoir des hindous face à la marée vive de l'expansion musulmane. Pendant 2 siècles, les rois de Vijayanagar auraient su résister à l'agression islamique et puis tout serait tombé en ruine. Ce récit maître, écrit à plusieurs mains, dont celle de l'épigraphiste et historien britannique Robert Sewell, est le même que l'on trouve soit chez Nehru, soit chez Naipaul, pour ne parler que deux parmi les centaines d'auteurs qui sont passés par les ruines de la ville de Vijayanagar pour évoquer la gloire de l'Inde jadis détruite par l'islam. Or, les matériaux historiques dont on dispose, en partie grâce aux travaux de Sewell lui-même, donnent une vision nettement plus nuancée du caractère de ce royaume. D'abord, il est clair qu'il y avait une symbiose culturelle entre le royaume de Vijayanagar et ses sultanats voisins, aussi bien au XVe qu'au XVIe siècle. Tous participaient d'une culture hautement persianisé, ce qui est mis en évidence dans le récit d'un ambassadeur persophone venu de Herat à Vijayanagar dans les années 1440, Abdelrazak Samarkandi. Le rituel de cour, la façon de s'habiller et même les pratiques fiscales du sultanat Bahamanide et du royaume dit hindou de Vijayanagar étaient les mêmes. Si les Bahamanides, comme leurs successeurs les sultans de Bijapur, employaient beaucoup de brahmanes comme administrateurs dans leurs cours, il était également pratique courante chez les rois de Vijayanagar d'employer des capitaines turcs, persans et autres musulmans dans sur le champ de bataille. D'ailleurs, on trouve parmi les ruines de la ville de Vijayanagar quelques mosquées utilisées par ces groupes jusqu'au milieu du XVIe siècle. De plus, le pouvoir militaire de Vijayanagar dépendait en grande partie des chevaux importés par des marchands, eux aussi souvent musulmans, du Golfe Persique et de la mer Rouge, et des armes à feu, elles aussi aux mains des Turcs et des Portugais. Pour résumer, il faut un parti pris idéologique assez fort pour imaginer Vijayanagar comme une zone purement hindoue, engagée dans une lutte incessante contre les envahisseurs musulmans. L'histoire diplomatique de la région montre, au contraire, que les rois de Vijayanagar étaient souvent alliés avec un sultanat contre un autre, et parfois même alliés avec le sultanat de Golconde contre un royaume qui était lui aussi hindou, comme l'Orissa des rois Gajapati. Il serait donc beaucoup plus raisonnable de voir Vijayanagar comme le résultat d'un processus d'acculturation. Mais pour avancer dans cette direction, il faut tout d'abord admettre la possibilité d'une Inde dont le cœur même serait ouvert à des influences externes. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, que dans les conflits périodiques entre Vijayanagar et ses voisins, les identités religieuses des uns et des autres n'ont jamais joué aucun rôle. Au contraire, nous voudrions insister sur le fait que l'aspect religieux n'était qu'un parmi de nombreux aspects et que les clivages étaient, eux, d'ordre conjoncturel plutôt que structurel. Les Portugais qui sont arrivés en Inde du Sud, vers 1500, ont perçu cette question de façon assez distordue. Il est bien connu que, dans un tout premier temps, ils ont surestimé de loin la présence chrétienne en Inde. En se remettant de cette déception, des dirigeants portugais comme Afonso de Albuquerque, gouverneur de l'État portugais des Indes entre 1509 et 1515, ont construit une cartographie ethnopolitique selon laquelle la population indienne était partagée en deux. D'un côté, on avait ce qu'on appelait à l'époque les gentils, qui viennent du mot portugais gentio, les gentils, les vrais autochtones de l'Inde, et de l'autre côté, les maures, ou les musulmans, pour leur part, aussi étrangers que les portugais. Cette vision apportait certes une certaine légitimité à la conquête portugaise, mais elle était également bâtie sur une opposition fondamentale et irréconciliable entre maures et gentils. Un certain nombre de nuances se sont constituées néanmoins avec le temps. Ainsi, les gentils, qui étaient relativement bien vus au début du XVIe siècle, ont souffert de l'image que leur a donnée la contre-réforme et surtout la première génération de jésuites et d'augustins en Inde. Plus tard encore, vers la fin du XVIe siècle, une nouvelle tendance s'affirme avec la politique dite d'accommodatio entre pratiques chrétiennes et pratiques gentilles. En même temps, en Inde du Nord, la création du grand empire des Moghols a bouleversé les calculs portugais sur l'avenir de leur propre empire asiatique. Ainsi, pour simplifier, et j'insiste sur ce point, pour simplifier, mais c'est une opposition fondamentale, on pourrait dire que deux visions parallèles de l'Inde se sont créées vers 1600. L'une originaire de l'Inde du Sud est centrée en grande partie sur les textes en sanskrit et en tamoul, et l'autre créée en Inde du Nord autour de la cour moghole et basée surtout dans la culture indo-persane. Si la première perspective privilégiait de loin les questions sociales, la deuxième se centrait autour de la culture politique, tout en présentant le grand moghol dans un cadre comparatif où ses pères étaient le grand soufi, roi de Perse, et le grand turc, résidant à Constantinople. Encore une fois, il faut souligner que ces deux visions, c'est-à-dire l'Inde vue de Delhi et l'Inde vue de Madurai, pour ainsi dire, n'étaient aucunement fantaisistes. Elles étaient néanmoins très partielles. Et surtout, elles fonctionnaient par la conjugaison d'éléments que se trouvaient souvent déplacés de leur contexte d'origine. Il faut imaginer que le lecteur en Europe, qui avait entre les mains une lettre du jésuite Roberto Nobili, écrite de Madurai, et une autre lettre de son contemporain, le jésuite Francesco Corsi, d'Agra, aurait eu beaucoup de mal à concilier les deux. Dans un cas, on se trouvait dans une société parfaitement dominée par les brahmanes, avec des rois fainéants, dans l'autre, dans un empire hautement centralisé, des Moghols, où les rois étaient assez indépendants, même par rapport aux prêtres musulmans. Dans un cas, la société était en quelque sorte constituée par la religion, sauf qu'on avait beaucoup de difficultés pour faire sortir du tissu social, de ce qu'on appelait l'idolâtrie, les éléments que constituait la religion gentille, proprement dite. Dans l'autre cas, c'était le pouvoir politique qui semblait tout gérer, même les questions religieuses. D'un côté, on avait le sanskrit, le latin de l'Inde, selon la formule de l'époque, et selon les jésuites surtout, et de l'autre côté, on avait le persan. Comment faire de cette troublante diversité une vision unifiée de ce qu'était l'Inde? Néanmoins, il y eut quelques tentatives tout à fait remarquables de réconciliation entre ces deux grands modèles, déjà au XVIIe siècle. Parmi les exemples les plus connus, on doit citer les écrits du néerlandais Francisco Pelsaert, réorganisé et traduit en latin par Johannes de Laet dans son livre « De Imperio Magni Mogolis », et plus célèbre encore, les lettres du médecin français François Bernier dans les années 1660. Celui-ci a construit un système de superposition où la première couche était occupée par le roi moghol et sa cour, mais où le terrain était dominé dans la réalité par les roitelets gentils ou hindous, dont le comportement correspondait au modèle du sud de l'Inde. Or, il est à la fois intéressant et significatif de constater que l'ensemble du système de Bernier fut assez mal saisi par ses contemporains, qui ont retenu pour la plupart l'idée simpliste d'un despotisme oriental, hautement centralisé autour de la personne du roi moghol. Plus tard encore, la tension entre ces deux visions, du sud et du nord, a produit toute une série d'autres tentatives de réconciliation, plus ou moins astucieuses, parmi lesquelles l'on peut également citer le texte du vénitien Niccolò Manuzzi ou les écrits de l'allemand Bartholomäus Ziegenbalg au début du XVIIIe siècle. Tout s'est plus ou moins résolu, enfin, et avec une certaine brutalité, vers la fin du XVIIIe siècle. La conquête britannique de l'Inde, qui a commencé en Inde du Sud dans les années 1740, y a joué un rôle primordial, mais pas totalement déterminant. Encore au milieu du XVIIIe siècle, des savants européens comme l'Écossais James Fraser ou le savant mercenaire suisse Antoine Poulier constituèrent des grandes collections de manuscrits persans en Inde, pendant que les jésuites en Inde du Sud continuaient à envoyer, et parfois même à inventer, des textes en sanskrit à Pondichéry ou à la mission de Madurai pour leurs lecteurs en Europe. Les écrits du célèbre Enquête du Perron sur l'Inde s'inscrivent également dans le même cadre chronologique et intellectuel que ceux de Poulier, de Colonel Gentil ou de Fraser, en insistant beaucoup sur l'apport de la langue persane pour une meilleure compréhension de l'Inde. Même les anciens textes des Gentils, selon l'expression de l'époque, passaient très souvent par des traductions en persan, qui étaient considérées au milieu du XVIIIe siècle comme parfaitement fiables. Par contre, à partir des années 1770, d'autres tendances se sont affirmées, en partie à cause de la suppression en Europe et l'expulsion de l'Inde de la Société de Jésus, mais aussi grâce à la formation des sociétés savantes en Inde, comme la Société asiatique du Bengale à Calcutta. Dans le cadre de cette nouvelle conjoncture institutionnelle et politique, le rapport entre ce que j'ai appelé la tendance sud et la tendance nord, soit entre l'Inde vue à travers un prisme sanskritique et à travers un prisme persianisé, a été radicalement modifié. L'Inde sanskritisée a nettement pris le dessus, ce qui est parfaitement symbolisé par la conversion de Sir William Jones, fondateur de la Société asiatique de Calcutta, et lui-même arabisant et persianisant au départ, en sanskritisant. Cela ne veut pas dire que le persan avait disparu ou que l'on faisait impasse sur l'existence des musulmans en Inde, pour ne pas parler d'autres groupes dont la culture trouvait difficilement ses origines dans l'Inde classique. Le persan a continué, bien sûr, à être utilisé comme langue d'administration encore dans la première moitié du XIXe siècle. Et quelques savants comme Francis Gladwin continuèrent leur travail de traduction et à diffuser les grands textes persans de l'Inde moghole comme l'Ayn-e-Akbari d'Abul Fazl. Mais ce qui importe est la place que l'on voulait donner dans cette nouvelle conjoncture à tout ce qui n'était pas issu de l'Inde ancienne, des Védas et des Dharmashastras. Ces autres productions et les autres savoirs furent considérés à partir de ce moment de façon utilitaire pour comprendre la mentalité musulmane, par exemple, mais dans d'autres termes, ils jouaient le rôle d'une couche artificielle qui empêchait l'accès au vrai savoir de l'Inde. Même le corpus de textes en sanskrit fut l'objet d'une espèce de nettoyage, passé au crible de la philologie occidentale ou débarrassé de tout ce qui était considéré comme tardif. Un discours global sur la corruption de l'Inde s'est instauré, allant de l'histoire littéraire à la vie sociale. Il était extrêmement difficile de réinterpréter un certain nombre d'aspects culturels de cette manière, comme par exemple la musique dite classique de l'Inde, qui était manifestement très marquée, aussi bien en Inde du Nord qu'en Inde du Sud, par des changements entre le 15e et le 18e siècle. Mais même dans ce champ-là, la recherche obsessionnelle des racines dans l'Inde ancienne a commencé au 19e siècle. Elle s'est poursuivie d'ailleurs jusqu'à nos jours. Certains veulent en effet faire remonter les pratiques des musiciens contemporains jusqu'à l'époque védique et d'autres, plus modestement, tout simplement jusqu'à Bharatamuni. Dans les termes de notre argument, cette recherche désespérée de la pureté indienne et d'un âge d'or dans l'Inde classique empêchait toute possibilité de voir l'Inde comme espace ouvert et faisait aussi de l'Inde un espace anormal dans les réflexions d'ordre comparatif. À partir du moment où la vraie culture indienne se résumait dans la culture de l'Inde classique, toute autre chose était contamination, excroissance, pollution. Du coup, les seuls vrais indologues en Occident étaient les sanskritistes. Et parmi eux, le gratin était composé des spécialistes de ce qu'on peut appeler l'Ursprung de l'Inde, des textes védiques et des épopées. Le mariage entre orientalisme et romantisme allemand vint confirmer cet état des choses au XIXe siècle. Et même aujourd'hui, l'indologie en Allemagne se résume pour l'essentiel à l'étude des textes classiques en sanskrit. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il n'y ait pas eu des voix minoritaires ou des savants que pensaient autrement. Le célèbre islamisant français du XIXe siècle, Garcin de Tassy, en est un bon exemple. Mais le chemin qu'il a pris est aussi significatif, car Garcin de Tassy s'est intéressé avant tout à la culture populaire et orale en Inde. Travaillant sur ce terrain, il était évident que la notion même d'une pure culture indienne était impossible à définir et encore plus difficile à faire remonter jusqu'à l'époque du grand écrivain Kalidasa. De plus, on voyait facilement que la culture populaire des musulmans en Inde était, elle, pleinement trempée dans l'ambiance locale. Les lecteurs de la grande biographie du prophète en tamoul, le Sira Puranam de Umaru Pullover, écrite à la fin du XVIIe siècle, se retrouvent dans une Arabie pleine de rizières et de cocotiers, où les femmes de la famille du prophète ressemblent drôlement aux héroïnes de la poésie médiévale du pays tamoul. Mais, mis à part quelques savants occidentaux comme Garcin de Tassy ou George Grierson ou Richard Carnac Temple, toute cette richesse de la culture médiévale indienne fut délaissée et déconsidérée pendant des décennies, sinon des siècles. On a facilement dit que l'Inde n'avait pas d'histoire, car admettre l'existence d'une Inde post-classique était trop coûteux épistémologiquement. Les anthropologues de la deuxième moitié du XXe siècle, qui niaient avec insistance la nécessité même d'étudier l'histoire de l'Inde, se trouvaient donc en ligne directe avec cette tradition néfaste de l'Inde fermée. Parfois, ils allaient encore plus loin que les savants du XIXe siècle, soulignant par exemple ce qu'ils décrivaient comme la congruence structurelle entre la culture actuelle en Inde et celle des épopées anciennes. En Inde même, ces tendances s'affirmèrent de plus en plus au cours du XIXe siècle. La perception savante du passé indien s'exprimait en général selon deux voies apparemment opposées, mais en fait, complices que l'on peut appeler les modernisateurs et les néo-traditionalistes. Les premiers acceptaient en gros le constat de la corruption constitutionnelle de la société indienne vers 1800 pour ensuite proposer des réformes conçues dans les mêmes termes que ceux du gouvernement colonial. Au Bengale, où le discours colonial fut sans doute le plus répandu, l'on parlait ouvertement d'une renaissance au XIXe siècle. Et dans cette région, comme ailleurs en Inde, les réformateurs dressaient souvent un tableau de la société indienne avant l'arrivée des Britanniques, où presque tout était violence, brutalité et corruption. Les néo-traditionnalistes, quant à eux, tout en acceptant une partie de ces propositions, attribuaient l'essentiel de la responsabilité de cet état des choses à l'influence néfaste du monde extérieur sur l'Inde, ce qui est devenu, depuis le début du XXe siècle, l'idéologie officielle des partis politiques hindous d'extrême droite. Les ressources culturelles et intellectuelles de l'élite indienne qui participait à la lutte anticoloniale étaient souvent trop limitées pour permettre un nouveau départ ou la création d'une troisième voie. Si la tentation d'encadrer le passé dans une conception de l'âge d'or, qui était l'Inde classique, est souvent présente même chez Gandhi, elle est d'autant plus frappante que la famille maternelle de Mahatma appartenait à un groupe syncrétique de Gujarat, appelé les Pranathis, ou parfois les Pranamis, qui puisaient dans son vocabulaire et sa conception du monde, à la fois dans l'islam et dans des pratiques hindoues. Néanmoins, Gandhi fit l'impasse dans ses écrits et dans ses discours publics sur une grande partie de ce riche héritage médiéval, à l'exception probablement de Kabir et de Narsi Mehta, et insista beaucoup plus sur les textes originaires de l'Inde ancienne, dont la Bhagavad Gita, qu'il interpréta selon une lecture clairement marquée par l'influence des missionnaires chrétiens. D'autres idéologues du Parti du Congrès manifestaient également leur grande perplexité quand il s'agissait de puiser dans le passé pour affirmer la politique, ce que serait la politique culturelle de l'Inde indépendante. À l'exception de Maulana Abul Kalam Azad, qui s'est plus ou moins inscrit dans la continuité des courants religieux de l'époque moghole, et de B.R. Ambedkar, qui a tourné le dos au grand mythe gandhien de l'Inde classique pour proposer le néo-bouddhisme comme solution idéologique pour les intouchables, les autres penseurs politiques du milieu du XXe siècle pouvaient difficilement échapper au piège de l'Inde fermée. Nous avons déjà constaté, par exemple, que Nehru, apparemment modernisateur occidentalisé, s'est trouvé piégé lui aussi par le discours néo-traditionnaliste. Ce dernier prit des proportions plus importantes encore à l'époque où sa fille, Madame Indira Gandhi, fut première ministre de l'Inde indépendante. Influencée dans ses premières années au pouvoir par des modernisateurs néo-marxistes, Madame Gandhi est devenue, à partir du milieu des années 1970, une partisane, elle aussi, de l'Inde éternelle et une victime du pseudo-mysticisme hindou qui se propageait de plus en plus à l'époque, créant ainsi une série de nouvelles institutions publiques vouées à diffuser ce message. Cette tendance néo-traditionnelle s'est encore accentuée dans les derniers temps, insistant de plus en plus sur l'âge d'or avant l'arrivée des musulmans et des missionnaires européens et tenant un discours assez paradoxal qui veut conjuguer une politique d'ouverture économique avec une politique culturelle totalement autoréférentielle. Ce n'est pas le moindre des paradoxes que l'on trouve aujourd'hui les partisans les plus forcenés de cette vision de l'Inde fermée parmi les Indiens qui habitent les États-Unis. Nous sommes en droit de nous demander dans quelle mesure cette mythification du passé indien n'est pas un processus normal, semblable à celui que l'on trouve dans les cas français, iraniens ou autres. Il va de soi que tout acte de construction nationale est en partie un acte d'homogénéisation, voué de par sa nature même à détruire la diversité culturelle. Or, contrairement à certains de mes collègues en Inde, mon intention n'est pas ici d'argumenter que le nationalisme indien en tant que tel est illégitime. Dans un monde construit par des nationalismes concurrentiels, il n'est pas évident de bâtir une stratégie même de survie qui ne soit pas à un certain degré nationaliste. De plus, l'argument global contre le nationalisme me semble assez peu innocent, car il vise à déstabiliser le nationalisme de certains pays tout en transformant le nationalisme d'autres en faux universalisme, thème qui a été traité probablement en partie hier par Mme Rothschild. Dans le cas particulier de l'Inde, les deux arguments qui ont été avancés à l'appui du nationalisme sont l'un d'ordre culturel et l'autre d'ordre religieux. Commençons par le deuxième argument. Il nous propose une Inde surtout et avant tout pour les hindous, qui serait en effet le reflet inverse du Pakistan créé pour les musulmans. Cela me semble être une idéologie peu souhaitable et aussi hautement dangereuse dans la pratique. Car dès qu'on admet ce type de raisonnement, on n'est pas loin de justifier le nettoyage ethnique de l'avenir. Le premier argument me semble beaucoup plus intéressant. Même si certains penseurs en Inde, tels que le néo-traditionaliste Ashish Nandi, ont voulu assimiler en fin de compte la culture indienne à la culture hindoue, réduisant ainsi les deux arguments au même. Il me paraît donc possible et même souhaitable de défendre l'idée de l'Inde en tant que nation sans trop pousser la notion d'homogénéité, ni dans son aspect religieux, ni dans son aspect linguistique ou régional. Il faudrait surtout admettre clairement que la culture indienne, telle qu'on la trouve aujourd'hui, est fortement marquée par l'empreinte de toute une série de cultures voisines et même parfois lointaines, mais que cela ne fait pas de l'Inde l'identique de l'Iran ou de l'Indonésie. L'Inde est également beaucoup plus le produit de son histoire médiévale qu'on le croit. Et les traces que restent de l'Inde ancienne ont été, elles aussi, souvent modifiées ou réinterprétées par les structures régionales qui se sont développées en Inde entre le Xe et le XVIIIe siècle. Cela est manifeste dans les cas des grandes épopées qui sont surtout connues en Inde par le biais des versions régionales produite à cette époque-là. Si on prend le cas de Ramayana, par exemple, c'est bien connu que ce n'est pas le Ramayana de Valmiki qui est connu partout en Inde, mais plutôt des recensions régionales, par exemple, dans le cas de l'Inde du Sud, le Ramayana de Kamban, ou en Inde du Nord, le Ramayana de Tulsidas, écrit au XVIe siècle. Somme toute, repenser l'Inde en tant que carrefour, pour reprendre la formule de Denis Lombard, utilisée dans le cas javanais, donc repenser l'Inde en tant que carrefour plutôt que civilisation oblige à changer profondément non seulement d'habitude de pensée, mais aussi de pratiques savantes, en Occident comme en Inde. Au lieu de concevoir l'Inde comme un simple jeu de va-et-vient entre le présent des ethnologues et des politiques, pour ne pas parler des touristes, et le lointain passé de l'Inde profonde entourée d'un brouillard de mystification, il faut enfin donner sa place à l'Inde historique, tant dans le milieu académique que dans l'espace public en général. En Inde même, il serait essentiel de modifier par ces moyens les pratiques citoyennes et les notions d'inclusion et d'exclusion qui sont malheureusement devenues des lieux communs ces derniers temps. De plus, le problème n'est pas particulier à l'Inde, car dans l'île voisine de Sri Lanka aussi, deux visions de passé s'affrontent violemment depuis quelques décennies. L'une qui est à la recherche des Sri Lankais de souche et l'autre qui voit cette île depuis longtemps comme un point de rencontre de plusieurs courants grâce à sa position en plein milieu de l'océan Indien. Je vous propose une interprétation peut-être plus coutumière selon laquelle l'Inde n'est guère plus à la limite que le Sri Lanka en plus grand et en plus complexe. Mais pourquoi vouloir s'arrêter là? La situation identitaire actuelle en France et en Allemagne ne devrait pas nous laisser insensibles aux enjeux de cette question qui vont beaucoup au-delà, encore une fois, de la particularité indienne. Merci.
Oui, bonjour monsieur. Une simple question. Est-ce qu'il y a une séparation État-Église, s'il vous plaît? Merci. Une séparation État-Église, est-ce que c'est indien ou pas? Merci.
Pour avoir une séparation État-Église, il faut tout d'abord avoir une Église. Et le problème dans le cas indien, c'est que jusqu'au XXe siècle, il n'y avait pas d'Église. Depuis un certain temps, depuis quelques années, on est en train d'inventer quelque chose qui ressemblerait éventuellement à une église. Mais comme ce n'est pas encore fait, et comme la plupart des Indiens n'ont pas d'appartenance, qu'ils soient musulmans, hindous, ou bouddhistes, ou jains, ou sikhs, à quelque chose qui ressemblerait à une église, c'est manifestement très difficile de faire cette séparation ou même présenter des arguments dans ces termes-là. Donc cela veut dire, je ne sais pas si c'est là où vous voulez aller, cela veut dire bien sûr que toute notion de laïcité en Inde est construite dans des termes qui sont nettement différents par rapport à la construction de la laïcité en Occident, qui est construite donc autour de cette opposition État-Église, bien sûr.
Mademoiselle ?
Oui, je crois que c'est moi. Merci beaucoup. Et puis, moi, je voulais vous demander, Salman Rushdie, pour nous, Occident, je crois que c'est une personnalité le plus connue. Dans votre explication, quel témoignage il nous livre de l'Inde ? Voilà.
Je crois que Salman Rushdie nous livre un témoignage qui est assez particulier, car même s'il a vécu dans son enfance en Inde, à Bombay, et dans la suite au Pakistan, il est en fait plus londonien qu'autre chose. Et donc la culture dont il parle est une culture qui est plus ou moins la culture des Indiens qui habitent en Occident. Et même cette espèce d'étrange mélange de langues et de mots, de dialectes qu'il emploie, hein, qui fait la particularité de ses romans, beaucoup plus représentatif de ces milieux-là que des milieux qu'on peut vraiment trouver en Inde. Néanmoins, dans certains de ses romans, et je pense particulièrement aux Enfants de minuit, il y a quand même une évocation assez brillante de ce qui était le Bombay des années 50, qui était donc le Bombay de son enfance. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'Indiens de la classe moyenne et de l'élite qui peuvent se reconnaître dans cette description. Voilà, c'est pour une partie de problème de Salman Rushdie. Il faut aussi dire que Salman Rushdie a une presse assez mélangée en Inde. Hein, et comme vous le savez peut-être, le problème des versets sataniques a commencé en Inde. C'est-à-dire que c'est l'Inde qui a interdit le livre. Et c'est là où le problème a commencé. Ensuite, les Iraniens ont pris la suite de ça. Et pour moi, ça fait partie de ces tendances qui se sont affirmées de plus en plus depuis les années 80, où à la fois on affirme une pureté hindoue, mais ça veut dire aussi que les autres ont le droit au même titre d'être purs et affirmer leur pureté aussi. Donc quand on rentre dans un jeu comme ça, vous voyez un peu les résultats désastreux.
Monsieur.
Bon, ma question c'est sur la terminologie. Vous avez utilisé le mot carrefour pour exprimer l'Inde. Pour moi, c'est plutôt un creuset, je dirais, parce que carrefour, si je compare avec la civilisation turque, il y a eu des invasions de nord, de sud, de l'est, de l'ouest. Donc, on peut appeler ça un carrefour. Mais pour l'Inde, ce qui était arrivé très souvent jusqu'à l'arrivée par la mer, c'était surtout de nord au sud. Les gens qui venaient, qui sont fondés, ils n'allaient pas plus loin dans le sens.
Je pense qu'en fait, cela fait partie des malentendus qu'on a sur l'histoire de l'Inde. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent nié l'importance de la mer pour l'histoire de l'Inde du Sud. On a nié, par exemple, la culture de Kerala ou la culture de Tamil Nadu ou, par exemple, d'Orissa était formée justement dans ces rapports autour de l'océan Indien occidental dans le cas de Kerala ou autour du golfe de Bengale dans le cas d'Orissa ou dans le cas de Tamil Nadu. On a souvent parlé, par exemple, de comment les temples en Asie du Sud-Est sont influencés par les modèles en Inde du Sud. Mais on a aussi oublié que les modèles de grands temples de l'époque Chola sont influencés par les modèles qui existent en Asie du Sud-Est. Donc, en fait, il y a un retour. Et c'est ce retour qu'on a souvent voulu occulter. Vous avez raison jusqu'à un certain point, parce que c'est vrai que si on, du point de vue démographique ou autre, si on fait le bilan, c'est sûr que les gens qui passent en Inde par la voie terrestre sont prépondérantes par rapport aux gens qui viennent par le sud. Mais je pense que cet aspect de l'influence qui arrive en Inde par le sud, c'est quelque chose qui a été négligé et on a payé un prix pour cela. Aussi dans les conceptions nationalistes tamoules qui sont construites à l'intérieur du nationalisme indien.
Madame.
Oui, tout à fait. Monsieur.
Il y a aussi quelqu'un derrière.
J'ai un micro. Deux questions, s'il vous plaît.
La première, vous avez rappelé que les Portugais colonisateurs ont distingué les gentils des morts. Les gentils étaient les locaux et les morts étaient les étrangers. Est-ce que cette distinction correspond à la différence de teinte de peau que l'on peut observer quand on va en Inde, au sud noir, dravidien, et au nord clair comme vous-même? C'est la première question. Oui. Et la deuxième question, V.S. Naipaul, le grand écrivain, observateur très aigu, qui est né à Trinidad, donc dans l'exil, et oui, qui est revenu en Inde, qui a écrit, je crois, Passage to India.
Oui.
Que pensez-vous de ce livre?
En fait, cette conception de la division entre gentil et mort, c'est quelque chose qui est assez, assez curieux, parce que c'est une espèce de moule préfabriqué. Hein, et je pense que c'est déjà influencé par les expériences des Portugais sur la côte de l'Afrique. Alors, est-ce que ça a à voir avec le teint de peau? En fait, vous avez donné un contre-exemple vous-même, parce que moi, je suis de l'Inde du Sud. souvent à Paris, j'ai des difficultés à expliquer ça, parce que les gens ont une espèce de stéréotype des gens de l'Inde du Sud qui va un peu à l'encontre de ça. Donc, je crois que en faisant cette distinction, les Portugais ont voulu faire deux choses. Ils ont voulu insister qu'il y avait une série d'étrangers en Inde et eux, ils étaient qu'un groupe parmi d'autres. Et donc, ils étaient plus ou moins aussi légitimes que les rois musulmans. Ça, c'était leur but. Mais pour faire ça, ils ont fait impasse sur une question clé, qui est le fait que, tout de même, la plupart des musulmans en Inde sont des convertis. Et donc, faire une distinction sur une notion qui est basée sur une distinction donc, ethnique, ou pour ne pas parler des mots dangereux comme race, même ethnique, est assez difficile, car on peut mettre côte à côte un Indien musulman et un Indien hindou et vous ne sauriez pas distinguer l'un de l'autre. Pour la deuxième question sur Naipaul, j'ai quand même fait référence un peu à Naipaul, mais je pense qu'il y a une nette évolution dans la pensée de Naipaul. Il a écrit, comme vous le savez sans doute, il a écrit trois livres sur l'Inde, trois livres, c'est-à-dire qui sont de type récit de voyage, pour ne pas parler de ses fictions. Et on voit, si on passe de Area of Darkness à India, a Wounded Civilization, et finalement à A Million Mutinies Now, il y a une évolution dans sa pensée. Au départ, il est très critique envers l'Inde, et il a même blessé pas mal d'Indiens par ses critiques. Ses critiques n'étaient pas forcément injustes, mais ils étaient aigus et ils étaient aussi parfois amers. Mais si on regarde le Naipaul des années 90, on voit qu'il y a quelqu'un qui parle d'une autre voix. Il n'est pas celui qui critique l'Inde de l'extérieur, c'est celui qui parle en utilisant un discours de corruption, en disant que l'Inde était donc géniale autrefois, mais c'est les siècles entre le 10e et le 17e, 18e qui ont créé des problèmes pour l'Inde contemporaine au niveau de la culture et autres. C'est vrai qu'il ne faut pas juger des écrivains et des littéraires par leur opinion politique. Ce n'est pas la seule chose qui est importante. Il y a aussi d'autres critères. Mais si on pense aux opinions politiques de M. Naipaul, je trouve qu'il conforte les thèses d'extrême droite en Inde, franchement.
Monsieur.
Bonjour, monsieur. Monsieur Poutine a rendu visite en Inde il n'y a pas très longtemps, je crois à peu près un mois. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les relations entre la Russie et l'Inde? Merci.
Écoutez, si je commence à parler des relations entre la Russie et l'Inde, je connais beaucoup plus sur un voyageur russe du 15e siècle, Afanassy Nikitine, que je ne connais sur Monsieur Poutine. Mais juste pour vous dire que, comme vous le savez, à l'époque de Madame Gandhi, dont j'ai fait brièvement référence dans mon texte, Au début des années 70, Madame Gandhi, la fille de Nehru, était sous l'influence d'un groupe marxisant plus ou moins pro-soviétique. Et à l'époque, il y avait un traité qui a été signé, qui était assez important pour la politique externe indienne pendant les années 70 et les années 80. Alors bien sûr, avec les changements de la fin des années 80, l'Union soviétique n'a pas gardé son importance pour l'Inde, ni en termes d'économie, ni en termes de géopolitique. Si j'ai bien compris, en lisant les journaux comme vous, la visite de M. Poutine était censée arrêter les dégâts un peu, c'est-à-dire d'affirmer que la Russie avait toujours un certain intérêt pour l'Inde, etc. Mais étant donné qu'il n'existe ni les bases économiques pour relancer le commerce, ni la possibilité d'importer, par exemple, les armes soviétiques pour les utiliser en Inde, vous savez que, par exemple, les sous-marins russes n'ont pas bonne presse ces jours-ci. Alors là, on est dans une situation où on voit mal comment ce rapport des années 70 pouvait être rétabli. Donc je pense que c'est une tentative de contrôler un processus qui est finalement hors de contrôle des Russes.
Alors, il nous vient une question de Laval, parce qu'en même temps que nous sommes ici, c'est retransmis dans les centres du CNAM. Je vous la lis. Les événements récents ou actuels montrent que lorsque les musulmans sont majoritaires ou représentent une minorité importante, il y a des persécutions à l'égard des non-musulmans. Comment voyez-vous la cohabitation des musulmans et des hindous ? Voilà.
Écoutez, Hans, je pense que s'il y a un problème, ce n'est pas le problème des persécutions des non-musulmans. Oui, bien sûr, il y a des persécutions des chrétiens qui ont commencé il y a 2 ans ou 3. Mais en fait, la politique contre les chrétiens est basée, en fait, c'est calqué sur la politique contre les musulmans. Le problème en Inde, c'est qu'on a une division démographique qui fait à peu près la suivante. Et on a 11% des musulmans, on a quelques 2-3% des chrétiens, à peu près la même chose des sikhs. Et les autres, c'est-à-dire plus que 80% de la population, sont des hindous. Les hindous ne sont pas menacés démographiquement par les musulmans. Ça, c'est un mythe. C'est un mythe de même genre qu'on trouve en France, d'ailleurs. Ce n'est pas comme si les musulmans, comme vous le savez, comme chaque démographe le sait, ce n'est pas parce qu'un homme a 4 femmes qu'on a plus d'enfants. Le problème, c'est donc, ça ne se pose pas dans ces termes en Inde. Je pense que le problème se pose en Inde autour de la sécurité de la communauté musulmane. Et je le sais par expérience personnelle, mais aussi par autre chose, depuis la fin des années 80, on se trouve dans une situation où beaucoup de musulmans qui habitent surtout dans les villes ont peur. Ils ont peur de la situation. Et cela aussi entraîne des réactions et il y a une série d'événements qui se sont produits et qui sont très connus dans les années 90 comme résultat. Donc, à mon avis, il faut, dans le cas indien, pas seulement nuancer, mais surtout éviter cette notion que les musulmans représentent une menace quelconque, qu'ils ne représentent aucune menace pour l'Inde.
Bien, bah écoutez, merci pour... Ah, il y a encore des questions, pardon, excusez-moi. Je veux dire, il faut vous manifester si vous voulez pouvoir les poser. Donc on en prend encore 2. Hein, madame.
Je voudrais savoir si des intellectuels indiens actuellement, oui. Vous avez cité Népal, vont-ils plutôt dans le sens d'un appui aux extrémistes hindous ou au contraire réfrènent-ils ce parti ?
En fait, le problème, c'est que le paysage politique s'est polarisé. Il s'est polarisé d'une façon un peu malheureuse, car on a d'un côté des gens qui parfois ont ces croyances ou qui pensent qu'il faut refaire leurs croyances pour être plus dans l'air du temps. Donc, il y a des littéraires, des peintres, d'autres, aussi des gens qui cherchent l'appui, le mécénat du gouvernement, qui reste important. Et comme le gouvernement est de l'extrême droite, on se plie à ça. Ça, c'est une tendance. Il y a aussi une autre tendance qui est plus ou moins organisée, qui s'appelle laïque ou laïciste, Mais là, souvent, c'est aussi assez inflexible dans sa façon de penser. Il y a, par exemple, les ex-communistes des années 60-70 qui sont organisés autour d'une série de sociétés, mais qui apportent, à mon avis, qui n'apportent pas une vraie réponse au problème actuel. Donc, en fait, le problème de l'Inde aujourd'hui, c'est des écrivains, des participants dans la culture qui n'ont pas d'appartenance politique nettement affichée, qui n'appartiennent à aucun parti politique en tant que tel et qui se trouvent un peu perdus. Et c'est là le problème.
Alors, dernière question, monsieur, au centre.
Bon. Allez-y. Bonjour. Depuis quelques années, se sont créées des sociétés de femmes pour organiser une vie économique. Qu'en pensez-vous ?
Oui, ça fait partie de deux tendances qui sont opposées. Il y a une tendance, bien sûr, qui vise à répondre à la mondialisation. Donc, il y a un certain nombre de groupes, surtout des femmes qui travaillent dans les métiers où il y a des possibilités d'être menacées par les produits importés, etc. Donc, disons qu'on a les versions, pas tout à fait José Bové, mais pas très loin de ça, en Inde. Vous avez peut-être vu des Indiens qui sont venus en France il y a 18 mois pour participer dans ce genre de choses. Il y a bien sûr aussi des groupes organisés de femmes. Il y a aussi bien sûr une autre série de tendances qui montent beaucoup plus jusqu'à beaucoup plus longtemps, qui sont des groupes qui se sont organisés autour des vrais problèmes de la société indienne. Et mon idée, c'était absolument pas de vous donner l'impression qu'il n'y a pas de problème qu'il faut adresser dans cette société, ou de dire que ces problèmes sont des inventions des gens qui sont venus de l'extérieur. Loin de ça. Donc, il y a toute une série de groupes qui se sont organisés, soit autour des problèmes urbains comme les problèmes de dot ou autres, ou autour des problèmes qui sont de la vie quotidienne, comme l'alcoolisme ou comme des problèmes, comme j'ai dit, de la production en coopératif, des choses qui sont donc des produits soi-disant traditionnels de l'Inde. Et tout cela, je pense que ça a quand même un apport assez intéressant, même si ce n'est pas déterminant pour l'Inde.
Allez-y, encore.
Le fait que ce soit des femmes qui les organisent plus que des hommes.
Je ne suis pas sûr que statistiquement, ça serait le cas. Bien sûr, parfois, les organisations des femmes sont plus visibles parce qu'ils ont la possibilité d'appuyer sur des réseaux internationaux qui sont autres. Mais je ne pense pas que même si on prend les ONG en Inde, que ça serait, il y aurait une prépondérance des organisations de femmes. Je ne pense pas.
Merci beaucoup.